Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les franco-russes sont terminés et nous sommes de nouveau dans l'attente d'un retour de l'actualité musicale et de la reprise des concerts en public. Tout laisse malheureusement à penser que ce n'est pas demain la veille. On peut même craindre à bon droit que ce ne soit pas avant l'été, sauf bonne surprise, mais sait-on jamais. Compte tenu de cette situation, nous allons donc reprendre aujourd'hui le cycle Mozart, commencé il y a quelques semaines. Après l'enfance et la jeunesse du compositeur, après ses concertos pour piano, ses opéras et ses œuvres de musique sacrée, place maintenant à sa musique de chambre. Pour vous la faire découvrir ou redécouvrir, j'ai le plaisir et l'avantage de retrouver Serge Krichevski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, vice-président des Clés de Saint-Pierre et président du Festival Musique au Palais. La musique de chambre n'est pas forcément la partie la plus connue de l'œuvre de Mozart, même si elle est très prolifique. C'est déjà une bonne raison de s'y plonger, mais en plus, comme vous allez pouvoir le constater, elle recèle de nombreuses pépites. Retour sur la musique du petit Mozart de chambre.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous aussi Serge. Nous avions exploré ensemble les concertos pour piano il y a quelques semaines et concernant la musique de chambre, là encore, beaucoup de choses, beaucoup de pièces. Je crois qu'on peut dire qu'il s'agit d'un genre où Mozart aura été aussi prolifique qu'original et où son génie a trouvé un terrain d'excellence pour s'épanouir. Est-ce que vous serez d'accord avec ça ?
Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Absolument, c'est, on va dire, une des facettes du génie mozartien s'exprime complètement dans la musique de chambre pour cordes, puisque c'est véritablement un massif extraordinaire, environ un peu plus d'une trentaine d'œuvres, dont beaucoup d'œuvres majeures qui se détachent de cet ensemble.
Alors, est-ce qu'on y trouve tous les types de formations ? Parce que la musique de chambre, c'est assez vaste quand même comme monde. Hein.
Alors, à l'époque, la musique de chambre, c'était un genre en formation. Hein. Mozart a écrit quelques duos, très peu, un trio magnifique, dont nous entendrons un extrait, beaucoup de quatuors et un ensemble de six quintettes splendides. Bon, après, il a écrit pour des formations à vent ou des formations plus mélangées, mais disons que pour en tout cas les formations à cordes, il s'est arrêté aux quintettes.
Cinq musiciens,
prolongeront des compositeurs comme Brahms, Mendelssohn, après d'autres compositeurs, ils iront jusqu'à 6 et 8.
Voilà, puis on verra qu'on trouve aussi des sérénades, des divertimento.
Ça c'était dans le genre, effectivement, musique d'apparat. Oui.
On va en parler. Est-ce qu'il a révolutionné ce genre ? Est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait avant lui ?
Alors, dans la mesure où il n'existait pas, disons, sous ces formes-là, pas grand-chose, indépendamment des six divertimento et sérénades dont vous parliez et dont nous parlerons, le trio à cordes, véritablement, il y en existait, mais ce n'était pas un genre à part entière, c'était un genre jeune. Le quatuor à cordes était en pleine construction, hein, avec Boccherini et Joseph Haydn surtout. Le quintet à cordes, il y en avait un petit peu, mais il a mis très très haut la barre. Donc voilà, il a pris des genres naissants et il en a fait déjà quelques ensembles de chefs-d'œuvre. Puis Mozart a écrit énormément dans tous les autres genres. Il a écrit beaucoup d'opéras, de concertos, de symphonies, ce qui n'était pas du tout le cas des autres. Haydn, oui, bien sûr, qui a eu une vie presque deux fois plus longue. Mais la plupart des compositeurs se spécialisaient dans un genre. Mozart a été une de ses traits caractéristiques, c'est qu'il a été extraordinaire dans la plupart des genres musicaux de l'époque.
Nous allons vous proposer une douzaine d'extraits pour illustrer l'œuvre pour musique de chambre de Mozart, extraits de pièces que nous allons diffuser dans l'ordre chronologique, de la jeunesse du compositeur à la maturité, les dernières ayant été composées peu avant sa mort. Et nous allons commencer avec ce petit extrait du premier mouvement Allegro du Divertimento K136. Il est interprété par le Quatuor Ebène.
Thank you.
premier mouvement allegro du Divertimento K136 de Mozart, interprété par le Quatuor Ebène, une formation récemment primée aux victoires de la musique classique. Un commentaire sur cet extrait, Serge, avec lequel vous avez souhaité commencer notre petit voyage dans la musique de chambre de Mozart, une pièce composée en 1772, il avait donc 16 ans.
Voilà, 16 ans, et donc il s'appelle, comme vous disiez, Divertimento, c'est-à-dire qu'à l'époque, les compositeurs, puisque ce genre était encore en construction, appelaient parfois sonate à 4 ou bien Divertimento. C'est très fréquent chez Haydn, Boccherini et d'autres. Donc à cette époque, Mozart appelle encore ça, et d'autant plus qu'il est encore à Salzbourg. Il écrit 3 divertissements, Köchel 136, 137 et 138, qui forment un ensemble, et ces divertissements sont en 3 mouvements. Ils sont tous les trois pleins d'une énergie, comme vous avez entendu, une énergie fantastique, juvénile et très 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 forte. Ils ont la particularité d'être souvent joués en orchestre à cordes de taille plus ou moins grande, mais là nous avons entendu une version pour quatuor à cordes, parce que c'est très probablement dans cette formation qu'ils étaient joués le plus souvent. Dans les divertissements qui utilisent des cordes, que nous entendrons après, en général il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire on n'est pas toujours certain que Mozart souhaitait l'œuvre dans une formation de quatuor ou avec une contrebasse en plus, ou bien d'orchestre à cordes. Ça fait une grosse différence parce que suivant la difficulté de l'écriture et suivant aussi l'affect de ce qu'il a écrit, ça peut complètement changer la couleur si on joue avec un quatuor ou avec un orchestre.
Est-ce qu'on sent dans cette pièce, donc composée à l'âge de 16 ans, encore l'influence de ses aînés, ou est-ce qu'il est déjà pleinement lui-même, pleinement le Mozart qu'on connaîtra un peu plus tard ?
Alors à la fois oui et non, c'est-à-dire qu'évidemment il y a déjà une patte, il y a déjà une verve, enfin une liberté de ton, et en même temps au niveau de l'élaboration notamment polyphonique, c'est-à-dire l'utilisation de chaque instrument, l'indépendance de chaque instrument, on est encore relativement loin des quatuors, même des quatuors médians, comme ceux de 1785, 84 et 5, et évidemment des derniers quatuors qui ont une très grande élaboration des parties médianes et de chaque instrument.
Voici un deuxième extrait dans cette émission, un autre quatuor à cordes, celui qui porte le numéro K156 au catalogue. Il fait partie de ce qu'on appelle les quatuors milanais, il y en a 6, celui-ci est le deuxième de cette série. On écoute tout de suite la fin de son deuxième mouvement Adagio, interprété par le célèbre quatuor Hagen. La fin du deuxième mouvement Adagio du quatuor à cordes numéro 3 K156 interprété par le quatuor Hagen. Alors j'ai dit qu'il faisait partie du cycle des quatuors dits milanais, tout simplement parce que Mozart les a composés lors de son séjour à Milan entre 1772 et 1773. 6 quatuors à cordes dans cette série, 6 quatuors sur les 23 qu'il composera tout au long de sa vie. Un commentaire, Serge ? Alors, c'est vraiment contemporain, hein, complètement du divertimento qu'on vient d'écouter.
Voilà, très très peu de temps après, et pourtant un ton tellement différent, beaucoup plus sombre et mélancolique. Alors il faut savoir que dans ces 6 quatuors écrits à Milan ou juste avant Milan, géographiquement, il a souvent introduit des mouvements comme ça, qui sont plus sombres, qui sont plus méditatifs, en contraste avec le style galant qu'on a entendu juste avant et qui le pratique encore beaucoup. Alors, ces quatuors milanais, ils ont encore une forme en 3 mouvements, contrairement à ce qui va suivre. Hein. C'est-à-dire que le quatuor tel qu'on le connaît la plupart du temps, il est en 4 mouvements. Là, c'est encore une forme à l'italienne vif, lent, vif, ou bien parfois lent, vif, lent, mais c'est plus rare. Donc, magnifique mouvement de ce quatuor. Alors, c'est le troisième voyage de Mozart en Italie. Il a appris à chaque fois beaucoup de choses. Il a appris des compositeurs, de ses rencontres. Notamment, il a affermi son génie mélodique. Et il a vraiment conforté ce qu'il savait déjà du style italien. Donc on va avoir l'occasion d'en reparler. Et je pense que le prochain extrait, qui lui a été composé à Vienne la même année, quasiment, donc quelques mois après, en 1773, sera un petit peu de la même veine. Hein, nous allons en reparler.
Eh bien, on va l'écouter maintenant. Donc troisième extrait dans cette émission avec un autre quatuor à cordes qui fait partie, comme vous venez de le préciser, du cycle dit viennois, celui-ci. Il y en a six aussi. Ils ont été composés à Vienne en août et septembre 1773. Donc juste après l'équateur milanais, nous allons écouter le sixième de la série, le K-173, dont voici le quatrième mouvement Allegro, encore interprété par le quatuor Hagen. Quatrième mouvement Allegro du quatuor à cordes numéro 13, K-173, le dernier des six du cycle viennois composé par Mozart à la fin de l'été 1773, interprété donc par le quatuor Hagen. Alors Serge, ces quatuors viennois, est-ce qu'ils marquent déjà une évolution par rapport au quatuor milanais qui les précède seulement de quelques mois? Oui, ne serait-ce parce que Mozart leur intègre un mouvement supplémentaire.
Voilà, à partir de ce moment-là, ils ont donc un quatrième mouvement.
C'est un menuet. Hein,
un menuet la plupart du temps, effectivement. Parfois, mais je crois pas encore, il intervertit le menuet, il le met en deuxième position et le mouvement lent en troisième. Mais surtout, l'importante nouvelle, c'est la découverte par Mozart de cycles de quatuor de Joseph Haydn, publié à ce moment-là, en 1771 et 72, dont il prend connaissance avant de connaître véritablement Joseph Haydn, puisque à cette époque, il vit majoritairement à Salzbourg, indépendamment de ses voyages. Là, il est à Vienne pour quelque temps, mais il n'a pas encore recroisé Haydn. Par contre, sa musique, il la découvre et il se met tout de suite à l'admirer, au point que dans ce cycle de quatuor viennois de 1773, il se laisse imprégner et il prend énormément d'éléments. Alors, ce mouvement final fugué, très caractéristique avec cette gamme chromatique qui descend et qui sert de sujet de fugue, c'est déjà un petit peu austère, ça évoque Bach alors qu'on en reparlera plus tard, on n'est pas encore là dans la vie de Mozart pour Jean-Sébastien Bach, mais par contre c'est plutôt de Haydn qu'il a pris cette écriture qui se complexifie, hein, on l'a entendu déjà, et qui va prendre beaucoup d'ampleur. Alors dans ces quatuors et également dans les suivants, il va y avoir de plus en plus de références à l'œuvre et en particulier l'œuvre de quatuor de Joseph Haydn. Sur le groupe des 6, vous avez souvent fait allusion à ce chiffre, c'est tout simplement parce qu'il y avait un format d'éditeur qui faisait qu'on publiait par 6 les œuvres. Il y a chez Bach également 6 partitas, 6 suites anglaises, etc. Les quatuors vont par 6 jusqu'à à peu près Beethoven, qui le dernier écrira un groupe de 6 quatuors opus 18, ses premiers quatuors, mais Haydn et Mozart, presque jusqu'à la fin, écriront par 6.
Alors une autre chose importante tout de même, c'est que ce quatuor numéro 13, celui que nous venons d'écouter, est considéré comme la dernière œuvre de jeunesse de Mozart et il va attendre ensuite 9 ans pour composer le 14e. Oui. Pourquoi alors, ce silence, alors, vous avez une théorie?
Alors, c'est pas véritablement un silence volontaire, mais c'est tout simplement qu'il est capté par d'autres choses. Nous le savons, vous le savez, vous avez dû en entendre parler, notamment par notre ami Robert. Il y a une passion de l'opéra chez Mozart, il y a une volonté de...
On a fait une émission avec Robert Pénévert.
Voilà. Oui. Il y a une volonté de trouver sa place à travers l'opéra, la symphonie, des genres plus d'apparat. Il y a évidemment... s'est démêlé avec l'archevêque de Salzbourg, quelques voyages, notamment le voyage à Paris où il va perdre sa mère et qui sera aussi un voyage de formation. Il y a son mariage avec Constance en 82, il y a aussi ses échanges avec son père qui deviennent plus tendus, et il se trouve qu'il va attendre un bon moment et il va recommencer à écrire des quatuors, comme par hasard, au moment où vraiment il fait la connaissance physiquement de Joseph Haydn, c'est-à-dire à son arrivée à Vienne en 1781.
Alors, on va en parler bien sûr un peu plus tard dans cette émission. Nous poursuivons maintenant en revenant au Divertimento avec le Divertimento numéro 17K334, composé entre 1779 et 1780, qui porte le nom de Robinig. Nous vous expliquerons pourquoi ensuite. On écoute le premier mouvement Allegro joué par le Wiener Kammerensemble. Le magnifique Divertimento numéro 17K334 et son premier mouvement Allegro interprété par le Wiener Kammerensemble, appelé donc aussi cette pièce Robinig, qu'il faut prononcer Robinich puisque c'est de l'autrichien. Petite explication Serge sur ce sous-titre.
Alors tout simplement une famille amie des Mozart, hein, la famille Robinig, donc dont les enfants peut-être. Alors ces divertissements et sérénades, là c'en est véritablement un, sont des œuvres de circonstance, hein, des commandes, et ça marque précisément à peu près la fin de la période où Mozart vivait à Salzbourg, puisqu'il y a un moment il va quitter Salzbourg presque définitivement, et c'est une époque où il écrivait beaucoup de ce type d'œuvres, hein, des œuvres longues, en 6 mouvements minimum, parfois plus, qui avaient une base de cordes et parfois 2 corps, vous avez pu entendre les 2 corps. Alors là aussi, est-ce qu'on les jouait juste avec un quintet ou bien avec un orchestre un peu plus fourni? Ça devait dépendre des occasions, mais il y avait des canons de ces genres-là particulièrement. Donc là, souvent, ces œuvres étaient jouées au mois de juin, au moment de la fin des examens. C'était pour fêter une famille qui commandait une musique.
Vous l'avez dit, 2 violons, un alto, une contrebasse et 2 corps. C'était particulier comme instrumentation à l'époque ou ça se retrouvait assez souvent?
Alors, pour les musiques d'extérieur, puisque la plupart du temps, elles étaient jouées en extérieur, parfois même en marchant ou bien en se déplaçant d'un lieu à l'autre. Oui, c'était une base. Alors bien entendu, il y a aussi des divertissements pour instruments avant uniquement. Il y a des divertissements pour cordes. Bon, on va entendre à la fin de l'émission une sérénade que vous connaissez bien pour cordes seules. C'est une base, c'est une des formules les plus payantes, si j'ose dire, dans ce genre.
Nous avons évoqué Joseph Haydn dans cette émission et nous l'avions déjà évoqué lors de précédents numéros de cette série. On sait à quel point il a été proche, il a compté pour Mozart. Et Haydn a également composé de nombreuses pièces de musique de chambre, comme ce Quatuor à cordes opus 20 numéro 5, dont voici le final, interprété par le Quatuor Mosaïque. Thank you. le Quatuor à cordes opus 20 numéro 5 de Joseph Haydn et son mouvement final interprété par le Quatuor Mosaïque. Alors Serge, est-ce qu'il y a des parentés entre les Quatuors de Haydn et de Mozart et peut-être même des influences réciproques? Qui influence qui et à quel moment de leur vie? Parce que ça peut s'inverser à un moment, évidemment.
Alors donc, au sujet du Quatuor Köchel 173, tout à l'heure, donc, nous avons dit que Mozart avait été influencé par Haydn avant de le connaître. Bon, il connaissait sa musique, mais les influences sont parfois assez loin. Il peut y avoir des citations de thèmes, ou en tout cas de mode ou d'allure, de mode de jeu. Et c'est sûr qu'à partir du moment où Haydn et Mozart vont faire connaissance, il va y avoir une admiration énorme qui va naître immédiatement, admiration et amitié. Et ce thème, vous l'aurez très probablement reconnu, c'est le thème utilisé par Mozart pour le Kyrie de son Requiem. Alors, c'est un profil thématique qui existait peut-être déjà à l'époque baroque, avec ce saut de septième diminuée descendante, mais là, il y a quand même tout, le contre-sujet également, enfin, beaucoup de choses, c'est très très proche du thème du Kyrie du Requiem. Il y a beaucoup d'autres éléments dans les quatuors qui vont suivre, qui sont empruntés à Haydn, par exemple l'esprit du final, qui est très souvent un final à deux temps, très léger, très, très rapide, des mouvements à variation, certains des procédés d'écriture aussi. Alors, la différence entre les deux précédents cycles milanais et viennois et le cycle qui arrive, c'est-à-dire le cycle des six quatuors dédiés à Haydn, c'est qu'ils n'ont pas été écrits d'un seul trait, ils ont été écrits entre, si je ne me trompe pas, entre 1782 et 85. Il y a donc 3 ans, parce qu'évidemment, c'est l'époque où Mozart écrit. Il s'installe à Vienne, il commence à avoir des succès, il écrit l'enlèvement au sérail, des concertos pour piano, et il y a pas mal d'autres éléments. Nous avons parlé tout à l'heure du style italien. Il avait été entre-temps également à Paris, où malheureusement il a eu beaucoup de déboires, mais il a à chaque fois assimilé le style de composition qu'aimaient les Français, le style français. Il a fait une synthèse personnelle avec son génie propre, il a fait une synthèse du style italien, du style allemand, du style français, et là, il fait la connaissance de Haydn, il se plonge dans sa musique, il voit que le quatuor à cordes devient un terrain extraordinairement riche pour exprimer ses états d'âme intimes, profonds. Donc, il se saisit de ça et il a en plus un nouvel événement, c'est qu'il fait la connaissance du baron Franz Witten, qui est une des clés de la musique de cette époque à Vienne, qui lui ouvre les portes de sa bibliothèque dans laquelle il trouve toutes les œuvres de Jean-Sébastien Bach et de Handel, c'est-à-dire tout ce qui est l'écriture fuguée, l'écriture contrapuntique, avec les canons, etc. Il les pratiquait déjà, il avait appris à les composer, mais là, cet univers nouveau que lui ouvre la connaissance des œuvres de Bach va infuser dans ses œuvres. Donc c'est une période qui est extrêmement, une période d'ébullition, très riche, et l'amitié avec Haydn est un des éléments très importants de cette période.
Alors vous l'évoquiez à l'instant là, il se trouve que Mozart a composé un cycle de quatuors à cordes dédié à Haydn, il y en a 6, comme les Milanais et les Viennois, ils ont été écrits entre 1782 et 1785 à Vienne, soit donc 9 ans après les quatuors viennois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous allons écouter le dernier des 6, le quatuor numéro 19, KV 465, il est sous-titré Les Dissonances, voici son premier mouvement Adagio Allegro, interprété une nouvelle fois par le quatuor Mosaïque.
Thank you.
Le Quatuor numéro 19 KV465 est son premier mouvement Adagio Allegro interprété par le Quatuor Mosaïque. Alors j'ai précisé avant qu'on écoute cet extrait que ce Quatuor était aussi appelé les Dissonances et c'est justement en raison de ce premier mouvement et de cette introduction lente, Serge. Mais c'est pas Mozart qui a donné le
nom. Je ne pense pas, mais c'est vrai que cette introduction très frappante avec des dissonances. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, on a fait en matière de dissonances des choses beaucoup plus déchirantes pour les oreilles, mais en réalité une des explications c'est quand même la symbolique maçonnique, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression au début de ce quatuor d'être avec un bandeau sur les yeux, on tâtonne, on cherche sa voix, il y a beaucoup d'ambiance un peu sombre, un peu opaque et puis tout d'un coup la clarté se fait dans lutte majeure du mouvement rapide, l'allegro. Alors vous avez noté, contrairement au divertissement robinique de tout à l'heure, c'est un petit peu, on tombe donc dans un style plus galant que l'introduction puisque l'introduction est délibérément très tourmentée, mais le style galant écrit dans le début du mouvement rapide est tout de suite beaucoup plus écrit, c'est-à-dire que ce n'est pas une mélodie accompagnée, tous les instruments ont leur part. C'est-à-dire que progressivement, depuis l'abandon de la basse continue, le quatuor à cordes devient un genre absolument central de la musique pour les amateurs, pour les professionnels, pour les aristocrates, sachant que beaucoup d'entre eux aussi sont francs-maçons, dont Mozart. À ce moment-là, il faut savoir que janvier 1785, où il compose ce quatuor, c'est le moment où il devient compagnon de la loge à laquelle il s'était inscrite. Donc c'est un moment, c'est une métaphore, c'est même pas, y a même pas à chercher. Et puis le quatuor précédent, 464 en la majeure, est également, il y a un mouvement qui retrace la cérémonie d'initiation. Donc c'est un élément très important. Sur les dissonances, alors ces dissonances ont des explications théoriques, c'est pas très très compliqué, c'est plutôt un climat comme ça, très tourmenté.
Oui, alors ce qu'on n'a pas dit jusqu'alors, c'est que Mozart et Haydn jouaient ensemble des quatuors à cordes.
Absolument, absolument.
Les quatuors de Haydn,
les quatuors de Haydn et tous les quatuors, ils les jouaient ensemble. Mozart était souvent à l'alto.
Et Haydn au violon.
Haydn au second violon. Il y avait également Van Hall et Dietersdorf. Tous compositeurs, et tous ces compositeurs se sont mis à se prendre de passion pour le quatuor à cordes. Et c'est vrai que c'était un échange. Alors, une chose très importante à dire, vous m'avez demandé s'il y avait des influences, des relations comme ça dans l'écriture entre Mozart et Haydn. Cette introduction des dissonances, il faut se reporter à son oratorio La Création. Vous écoutez le tout début qui s'appelle Le Chaos. Je pense que Haydn ne pouvait pas ne pas avoir en tête cette introduction du quatuor Les Dissonances de son ami Mozart.
Oui, alors et concernant Mozart, donc 9 ans entre les précédents quatuors et celui qu'on vient d'écouter, il est monté d'un cran quand même.
De plusieurs
clairement.
Déjà. Et alors, il faut juste dire un petit chose qui est très très émouvante, c'est si vous pouvez lire la dédicace faite à Haydn, où il explique qu'il a une tellement grande admiration pour ce grand maître déjà, vénérable Haydn, qu'il lui dédie ses 6 fils, chacun des 6 quatuors, et qu'il espère qu'ils lui plairont. C'est une dédicace très touchante.
Nous allons passer maintenant à un genre de formation qu'appréciait tout particulièrement Mozart et dans lequel il s'est beaucoup illustré, le quintet à cordes. Nous allons écouter d'abord le numéro 3 K515, composé en avril 1787. Son premier mouvement Allegro est interprété par une jeune formation française, le Quatuor Van Quijck, renforcé par l'altiste Adrien Lamarca. Thank you. Le premier mouvement Allegro du quintet numéro 3 K515, interprété par le Quatuor Van Kuijk, je dis Van Kuijk, je ne suis pas sûr de la prononciation, auquel s'est donc joint l'altiste Adrien Lamarca. Rappelons qu'un quintet à cordes est constitué de deux violons, deux altos et un violoncelle. Serge, je crois que vous êtes très très attaché au quintet à cordes de Mozart.
Alors, bon, je ne suis pas le seul, c'est considéré vraiment comme le genre qu'il a porté encore plus haut que le Quatuor à cordes, si c'est possible. Donc, il n'en est qu'à son troisième quintet à ce moment-là. Il en a écrit un vers 1774 ou 13 à peu près, et le second sera un arrangement d'une sérénade pour instrument avant, et celui-ci, le troisième, véritablement quintet à cordes, est un chef-d'œuvre, hein, extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une amplification du quatuor à cordes. Il y avait des quintettes avant lui, hein, Michael Haydn, notamment le frère de Joseph Haydn. Boccherini a également écrit des quintettes à cordes, parfois à deux violoncelles. Alors Mozart s'est concentré sur les quintettes à deux altos. Il tenait lui-même la partie de premier alto, et il a particulièrement soigné toujours les parties médianes, les parties donc justement en remplissant toujours de façon plus intéressante les parties de second, alto 1, alto 2, et vraiment en donnant de l'indépendance et de la dialogue à toutes les voix. Donc effectivement, là on est au début, il y a coup sur coup quatre chefs-d'œuvre, hein, à partir de ce troisième quintet. Et il n'ira pas plus loin en nombre d'instruments, mais il va écrire quand même une musique fantastique, hein.
Alors ce quintet en ut majeur numéro 3, K515, a été terminé un mois avant seulement, hein, le quintet à cordes numéro 4 en sol mineur K516. Nous allons tout naturellement enchaîner avec ce quintet à cordes numéro 4, encore avec le premier mouvement Allegro, interprété cette fois-ci par le Quatuor Eben et l'altiste Antoine Tamesti. Le premier mouvement Allegro du quintet à cordes numéro 4 en sol mineur K516, interprété par le Quatuor Eben et l'altiste Antoine Tamesti. Serge, un commentaire sur cette œuvre, à comparer bien sûr avec le quintet numéro 3 en ut majeur que nous avons écouté juste avant. Ut majeur, voilà. Sol mineur.
Ut majeur, sol mineur, deux tonalités qui sont chez Mozart souvent voisines ou très proches dans le temps. On aura les magnifiques exemples de la symphonie 40 en sol mineur et de la symphonie 41 Jupiter en ut majeur. C'est-à-dire que très vraisemblablement, comme ce sera le cas pour Beethoven également, eh ben Mozart écrit les œuvres en même temps. C'est très très probable. Mais c'est-à-dire que ces deux affects opposés, hein, en l'occurrence, bon, la symphonie en sol mineur, la symphonie Jupiter. On a parlé pendant les concertos pour piano de la représentation mentale des tonalités pour les compositeurs, en particulier à cette époque. Là, c'est évident, il y a toute une sphère affective autour d'ut majeur et une autre autour de sol mineur. Là, on a le drame sombre, tourmenté,
oui, côté très tragique,
le côté, hein. Voilà, Sturmundrang, hein, c'est vraiment l'opposition. Alors, on peut plus parler de moins en moins, on peut parler de style galant, parce que Mozart est en train de le dépasser, et chaque fois qu'il écrit presque encore dans ce style quand il faut vraiment, ou parce qu'il a besoin d'argent, mais sinon, tout est écrit de plus en plus, conçu avec beaucoup de travail, et c'est quintette qui commence à devenir presque symphoniques, sont splendides tous les deux, et puis on parlera encore du suivant.
Nous revenons maintenant au quatuor à cordes avec l'Adagio et fugue en ut mineur KV546, qui est en fait la transcription de la fugue en ut mineur pour deux pianos. Mozart réalise cette transcription pour quatuor à cordes en 1788. Nous allons l'écouter vers la fin de l'Adagio jusqu'au début de la fugue. Il s'agit d'une interprétation du quatuor Debussy. L'Adagio et fugue en ut mineur, KV546 de Mozart, interprété par le quatuor Debussy. Donc Mozart a transcrit ici la fugue en ut mineur pour deux pianos. Il y a ajouté un adagio en introduction. Et évidemment, quand on parle de fugue, on pense à Jean-Sébastien Bach,
voilà,
que vous évoquiez tout à l'heure, et au contrepoint.
Voilà, effectivement, la fugue, a été écrite pour deux pianos initialement en 1783, c'est-à-dire exactement l'époque où Mozart est plongé complètement dans les partitions et découvre Bach et Handel chez le baron van Swieten. Et puis après, il a besoin, ce qui est intéressant, c'est que là, on entend une transcription faite par Mozart lui-même, et il adjoint une introduction sous forme d'adagio qui commence, alors on n'a pas entendu ça, mais vous pourrez le réentendre, ça commence dans un style vraiment assez déclamatoire, vraiment à la Handel, comme dans un opéra de Handel, et cette forme en deux mouvements évoque un petit peu les sonates d'église, comme il y en a eu, avec un mouvement lent et un mouvement vif fugué, qui était parfois suivi d'autres mouvements. Ce style contrapuntique est à la fois abordé, Mozart s'y attelle, parfois en y transpirant un petit peu, mais ce cas-là est très très réussi, c'est une œuvre qui est très célèbre, il y a des fois c'était un petit peu plus difficile pour lui, mais après ça il va globalement incorporer complètement le style fugué à sa musique, avec toutes les autres caractéristiques de son écriture. Il y aura un phénomène similaire avec Beethoven, c'est-à-dire que lui aussi connaîtra très bien van Swieten, qui sera un de ses mécènes, et il aura cette découverte de Bach et Handel pareillement.
Retour au divertimento maintenant, un genre que Mozart appréciait, comme nous vous l'avons dit au début de cette émission. Il compose en 1788 le divertimento en mi bémol majeur K563. Il s'agit d'un trio à cordes en 6 mouvements, dont voici le premier allegro, interprété par Veronica Eberle, Amihai Gross et Sol Gabetta. Thank you. Le premier mouvement Allegro du Divertimento en mi bémol majeur K563 de Mozart, interprété par Veronica Eberle, Amiha Gross et Sol Gabetta, une œuvre dédiée à Johann Michael Puchberg, un frère en maçonnerie, un de plus, qui fut aussi un des généreux soutiens financiers de Mozart, une œuvre contemporaine des dernières symphonies, donc les 39, 40 et
absolument,
41,
oui.
Et une œuvre qui semble peut-être ramener un peu Mozart au style galant, si je ne me trompe.
Alors, en fait, pas tant que ça, c'est-à-dire la forme du divertissement en six mouvements est bien là, c'est-à-dire c'est une œuvre très longue et d'ailleurs très difficile pour les interprètes, d'autant plus que quand on est trois, ben on n'est pas quatre ou cinq, donc il y a un peu plus quand même. Et puis en plus, Mozart réussit par son talent à épaissir le discours malgré les trois instruments, donc les parties sont très chargées. C'est véritablement un chef-d'œuvre. En plus, il a écrit très très peu, enfin il y a juste des essais à part celui-là pour trois instruments à cordes, et c'est un genre un petit peu ingrat parce que justement il faut vraiment bien faire sonner les trois instruments, que ça ne paraisse pas trop vide. Là, il y a plusieurs mouvements. Alors, il y a le mouvement à variation. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements sont absolument magnifiques. Et on voit vraiment que le style galant, là, est dépassé. Hein. Bon, c'est effectivement écrit pour des amis. Ça a été créé avec Mozart à l'alto, donc je crois à Berlin l'année d'après. Bon, c'est vraiment une œuvre qu'il faut absolument découvrir. Un petit peu à côté de tous ces quatuors magnifiques et des quintettes, mais...
Alors, il semble qu'il y ait des motifs semblables dans les mouvements lents à d'autres œuvres célèbres de Mozart, le quintet pour clarinette, le quintet avec clarinette.
L'entrée là, qu'on a entendue, effectivement, évoque beaucoup le début du quintet pour clarinette avec ses blanches descendantes, enfin des motifs descendants. Oui, il y a des, bien sûr. Hein,
Souvent, il y a des autocitations.
Oui,
c'est
oui,
les compositeurs.
Oui, et puis des motifs bon, avec la densité d'écriture qu'il avait.
Nous allons repasser maintenant par la case quintette à cordes en vous proposant d'écouter le quintette numéro 5 en ré majeur, K593. Il a été composé en décembre 1790. Son premier mouvement Allegro est interprété ici par une formation menée par le violoniste belge Arthur Grumiaux. Quintette numéro 5 en ré majeur K593 de Mozart, le premier mouvement Allegro, interprété par le violoniste belge Arthur Grumiaux, entouré de quatre musiciens suisses et hongrois. Serge, un commentaire sur cette pièce, ce cinquième quintette à cordes, après avoir écouté précédemment les troisième et quatrième.
Magnifique quintette, une fois de plus, hein, dont le premier mouvement a une forme assez particulière. Ça commence par une introduction lente, puis il y a tout le mouvement rapide. On retrouve, il y a à la fin du premier mouvement, de nouveau l'introduction lente, puis une coda rapide. Sachant que ce qu'on a entendu là, c'est ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire la partie centrale du mouvement. Dans la forme sonate, hein, vous savez que c'est très simple, on a une partie A, qu'elle soit rapide ou lente, une partie centrale différente qui développe les éléments thématiques, et un retour, une réexposition de la partie A. Donc là, on a fait vraiment la partie de travail thématique et on voit à quel point Mozart, à cette époque, pousse très loin, enfin, tout ce qu'il a fait jusque-là. Hein. C'est une chose que fera également Haydn, y compris après la mort de Mozart, puisque Haydn va survivre de plusieurs années à Mozart. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers la partie médiane du mouvement et de plus en plus étendue et de plus en plus élaborée, travaillée. Et c'est une chose dont s'emparera évidemment Beethoven. À signaler que je pense qu'un des grands mécènes viennois, le prince Lobkowitz, avait demandé à Haydn s'il avait pensé à écrire des quintettes, pourquoi il ne l'avait pas fait. Il a répondu, écoutez, j'en ai rêvé parfois, mais après les quintettes que Mozart a écrites, je ne me vois vraiment pas chercher à lui faire concurrence. Par contre, Beethoven, peu de temps après, donc dans les années 1800 ou 1801, a écrit un magnifique quintet, opus 29, que je vous recommande.
Voici maintenant la dernière œuvre que nous allons écouter dans cette émission dédiée à la musique de chambre de Mozart, et c'est certainement une des plus célèbres composée par le petit génie de Salzbourg, sa fameuse petite musique de nuit, la sérénade numéro 13 pour cordes en sol majeur K525. Son rondo est interprété ici par le quatuor du Gewandhaus. Eine kleine Nachtmusik, le rondo de la petite musique de nuit, autrement dit la sérénade numéro 13 pour cordes en sol majeur K525, interprétée par le quatuor du Gewandhaus. Alors en fait, Serge, il s'agit encore d'un quintet à cordes, composé celui-ci en 1787, et qui n'a a priori jamais été joué du vivant du compositeur. Et c'est bien sûr une des pièces de musique classique les plus connues au monde, mais avant tout, c'est un super chef-d'œuvre.
Oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors effectivement, il suit les quintettes qu'on a entendues tout à l'heure, ut majeur et sol mineur, dans un genre, alors là, encore galant, mais tellement dominé, tellement... Là, il y a véritablement une partie de contrebasse pas séparé, mais en tout cas qui est demandé par Mozart, ce qui n'aurait pas pu être le cas dans un quatuor, hein, c'est-à-dire que l'écriture n'est pas la même quand il y a une contrebasse prévue. C'est une œuvre donc sérénade, normalement, il y a un peu plus que 4 mouvements. Il nous en reste 4, mais il devait y en avoir 5 et on a probablement perdu un mouvement. On n'est pas tout à fait sûr, mais un mouvement probablement perdu. Effectivement, c'est un style limpide, une œuvre qui mérite sa renommée. Hein. Chaque fois qu'on l'entend, elle nous donne de la joie, du plaisir. Et elle clôt, voilà, c'est une sérénade. Mozart n'en avait quasiment plus réécrit depuis Salzbourg, c'est-à-dire depuis 1781. Ça fait à l'époque 6-7 ans qu'il n'a pas écrit pour ce genre. Donc on ne connaît pas les origines de la commande, probablement une commande, mais une œuvre qui n'est pas la dernière qu'il écrira pour cordes, hein, puisque il y aura après ça encore 3 quatuors à cordes.
Les quatuors prussiens, ce qu'on appelait les quatuors prussiens.
Alors on a oublié de parler du quatuor qu'on appelle Hofmeister, écrit en 1786. Mais c'est un quatuor isolé, pour une fois, ce qui est assez rare à l'époque et chez Mozart. Et ensuite, on a une commande probablement du roi de Prusse, qui était lui-même un assez bon violoncelliste et pour lequel Mozart écrira 3 quatuors, mais il ne terminera pas, il devait en faire 6, comme c'est prévu souvent et à l'époque, et il n'en terminera que 3. 3 quatuors magnifiques, mais qui lui ont posé des problèmes parce que, avec une commande venant d'un violoncelliste, il devait écrire une partie de violoncelle particulièrement intéressante, attractive, voire difficile. Et évidemment, ça déséquilibre un peu l'écriture habituelle du quatuor à cordes. Le violoncelle n'est pas censé être un instrument soliste non plus dans le quatuor à cordes. Donc, 3 très beaux quatuors également. Et un dernier quintet, le sixième quintet magnifique en mi bémol également, très travaillé, qui clôt cette série d'œuvres pour cordes, hein, ce magnifique ensemble.
Eh bien, nous allons conclure cette émission là-dessus et par là même refermer ce 5e volet de notre cycle dédié à Mozart. Celui-ci était donc consacré à sa musique de chambre et vous avez pu constater tout au long de ce numéro la richesse et l'incroyable variété de cette partie de l'œuvre mozartienne, à n'en pas douter une des plus fascinantes qui mérite d'être méticuleusement explorée. Je rappelle que tous les extraits que nous avons diffusés sont disponibles en accès libre sur YouTube. Profitez-en pour les écouter en entier, mais nous n'en avons pas terminé avec notre cycle Mozart. Il reste notamment à consacrer une émission à ses symphonies. Il y en a 41, comme vous le savez. Inutile de vous dire qu'on ne pourra pas toutes les aborder, mais il y aura bien un 6e volet pour parler des plus célèbres d'entre elles. Ce sera lors d'un prochain numéro dont je n'ai pas encore fixé la date. Tous mes remerciements à Serge Krichevski pour sa participation ô combien brillante à cette émission. Sachez que c'est lui qui m'a proposé les œuvres et les extraits que nous avons écoutés. Encore merci Serge pour ses choix très judicieux. Merci également à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, très bon week-end et excellente semaine à tous.